dans cet épisode du balado compte complet.
Ben, je fais le tour, là. J'ai regardé chacun des joueurs de position. Là. Je parle pas des lanceurs, mais des joueurs de position. Puis honnêtement, là, je vois pas comment on peut être meilleur que l'année dernière. Et c'est très. Moi, je trouve ça très inquiétant. Très, très inquiétant.
En jeu! Deuxième prise, compte complet.
Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzreau et Marc Griffin.
Bienvenue à compte complet, notre balado hebdomadaire sur ce qui se passe dans le monde du baseball. Alain Huzreau en compagnie de Marc Griffin. Marc, malheureusement, ce qui a retenu l'attention au cours de cette dernière semaine, c'est le très grand nombre de blessures à des joueurs importants. Des deux qui me viennent en tête, c'est Shane Bieber et Spencer Strider. Dans le cas de Bieber, sa saison est déjà terminée et pour lui, c'était une saison importante, devenait joueur autonome à la fin de l'année. Strider, lui, avait un contrat de plusieurs saisons et ça ne regarde pas très bien au moment où on se parle dans ce lundi matin. Et il y en a plusieurs qui lèvent le drapeau rouge là, sur ces nombreuses blessures. Il y a toutes sortes de raisons qui sont balancées à gauche et à droite. Écoute, c'est une tendance, Marc. C'est pas compliqué. Là, regardez la courbe depuis 10 ans. Là, c'est en augmentation inquiétante chez les lanceurs.
C'est très inquiétant, Alain, effectivement. Puis c'est difficile de mettre le doigt sur une raison. Tu as parlé de multiples raisons et c'est vrai parce que ce qu'on voyait venir au cours des 10 dernières années ou même 15 dernières années, c'est la tendance évidemment vers la vélocité. On veut de la vélo, peu importe si jamais tu lances tout croche, lance fort puis on va te repêcher, lance fort puis on va trouver des solutions. Pourtant, à ce que je sache, il n'y a personne qui trouve que ta quatrième balle, là, même si elle est lancée à 99 000 à l'heure, là, c'est une quatrième balle quand même. Fait que c'est une tendance... Tu sais, qu'on a vu venir, parce qu'on s'est posé la question, Alain, il y a une dizaine d'années, là, est-ce que le corps humain peut soutenir une telle pression que l'on met sur le coude à ce moment-là? Et là, il y a eu toutes sortes de théories. Est-ce que c'est le fait que la balle est trop glissante, alors il faut avoir une substance qui va permettre que cette balle-là glisse moins pour que les balles à effet soient moins brusques, moins... violent au niveau des du coude. Après ça, est-ce que... Bon, tous les nouveaux tirs, la slurve, puis les glissantes, les rapides coupés, est-ce que ça a un impact? Possiblement, mais je pense que quand même, tout tourne autour, selon moi, là, je ne suis pas un expert, là, je ne suis pas un médecin, là, mais tourne autour de la vélocité. Il y a des joueurs de position qui ont subi l'opération de type Tommy John. J'ai subi l'opération de type Tommy John, je n'étais pas un lanceur. Et c'est parce que je lançais le plus fort que je pouvais chaque fois. Puis entre les manches, puis bon. Donc, moi, c'est pas parce que je lançais des balles à effet là, que j'ai subi l'opération. Fait que, mais comment régler ça? Puis soit dit en passant, là, Alain, est-ce que tu as vu le communiqué de Tony Clark?
Oui, de l'Association des joueurs, là. Honnêtement, c'est pas basé sur grand-chose de solide. Lui qui blâmait, en fait... En grosse partie, là, l'instauration de la limite de temps du cadran.
Bon, exact. Alors, moi, je pense pas que le cadran a rien à voir avec ça. C'est pas 2 secondes ou 3 secondes qui de repos de plus, selon moi, en tout cas, qui va changer de quoi que ce soit. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple de savoir qu'est-ce qu'il y en est vraiment. Est-ce qu'on va dire au lanceur, bien là, lancez moins fort? Alors que maintenant, depuis 10 ans, tout ce qu'on demande aux jeunes qui sont dans les écoles secondaires et collégiales, c'est lance fort, bon, on va te corriger. Il y a vraiment pas de solution très simple. Est-ce que c'est d'aller vers une rotation à 6 lanceurs, à 7 lanceurs, donner vraiment beaucoup de repos? Ouais. Tu sais, je sais pas, mais ce n'est pas simple et c'est un grand problème parce que tu enlèves un Shane Bieber aux Guardians, tu enlèves un Spencer Strider. Je comprends là que tu peux avoir la profondeur puis d'autres peuvent arriver, mais tu sais, c'est le spectateur qui écope. Tu veux voir Spencer Strider lancer à tous les 5 jours puis tu sais avoir ses retraits sur des prises. Tu veux voir ces gars-là qui sont spectaculaires. Puis là, ben on les perd. Ça tombe comme des mouches. Alors, c'est un réel problème qu'il va falloir vraiment, là, selon moi, là, aller à fond. Parce que ça fait plusieurs années, Alain, qu'on parle, tu sais, d'examiner le cas, mais on va en surface, là, on fait pas vraiment, là, de, tu sais, on va pas à fond pour au moins connaître quelques raisons. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais tu sais, c'est qu'à un moment donné, ce sont aussi les carrières, puis pas impossible qu'éventuellement, tu donnes pas de contrat plus de 2-3 ans à des lanceurs partants compte tenu de ce qui se passe. Donc, je pense que pour le bien du baseball, le bien des joueurs, le bien des spectateurs, là, il faut rentrer là-dedans à fond, là.
Moi, je me souviens, Marc, il y a une dizaine d'années, les Braves d'Atlanta avaient perdu 2 jeunes lanceurs pendant le camp d'entraînement et pour l'année. Et c'est John Schuerholz, à ce moment-là, qui était à la tête des Braves d'Atlanta. Et déjà, lui, s'était adressé au bureau du commissaire. Il dit, regardez, là, je viens de perdre 40% de ma rotation des partants. Les Braves, qui en avaient beaucoup, là, à ce moment-là. Puis, on en a perdu aussi beaucoup. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, faut faire quelque chose. Puis on a l'impression qu'on est encore à tâtons, qu'on est en mode essai-erreur. Mais moi, j'ai une question personnelle pour toi, Marc. Et je ne sais pas si, quand tu as eu ton opération, c'est une transplantation ligamentaire, là, c'est l'opération Tommy John au coude. Est-ce que tu avais eu d'informations, savoir ce qui avait causé? Est-ce que c'est la répétition? Est-ce que c'est une technique soudaine? C'est un moment, c'est un lancer qui a fait ça. Est-ce que tu avais eu d'informations sur ce qui aurait pu causer la déchirure de ce ligament?
Je vais toujours me souvenir du visage, parce que moi, j'étais chanceux dans ma malchance. C'est le docteur Job qui m'a opéré, lui-même, le Frank Job qui m'a opéré à Los Angeles en 1992. Et je me souviens parce que j'avais rencontré docteur Job bien avant mon opération, parce que j'avais mal au coude, puis les expos, je venais d'être échangé, donc des Dodgers aux expos. Les expos, c'est avec docteur Job, était à Vero Beach. Alors, je suis allé à Vero Beach me faire examiner pour dire, j'aime pas ça, mais ça se peut que ça soit pas une blessure chronique. Donc, tente une réhabilitation. Alors, pendant 2-3 semaines, j'ai tenté une réhabilitation. Et tout ça pour dire que finalement, lorsque j'étais à 90% de ma réhabilitation, il a fallu que je lance 5 relais à 100%. Et le 3e relais que j'ai fait à 100%, j'ai vraiment ressenti la brûlure que j'avais ressentie au départ. Donc, on m'a opéré et je me souviens toujours du visage de Dr. Job qui m'a dit « T'es pas lanceur, toi? » J'ai dit « Non, je suis pas lanceur, je suis voltigeur. » Et il avait dit « Écoute, c'était, en voulant dire, excusez l'expression, mais c'était magané, là. » Alors, mais moi, dans mon immaturité, parce que c'est vraiment un peu ça qui a causé ça, c'est que on m'avait toujours dit « Tu sais, si tu peux montrer ton bras, montre-le. » Alors moi, j'avais un très bon bras, alors je le montrais. Alors moi, là, entre les relais d'avant-match, je lançais à 100%. Les relais entre les manches, moi, je lançais 100%. Puis ça a fonctionné. Les 3 premières années professionnelles, j'ai jamais eu de problème. Puis je lançais fort, puis je voulais même, à la limite, intimider l'adversaire qui disait « Courez pas sur moi parce que regardez ce que... » Alors, il y avait un peu d'arrogance, évidemment, dans tout ça, là, mais j'aurais pas dû, il aurait fallu que tu passes de jouer au Québec 40, 50, peut-être 60 parties à l'époque, à 150, 160 parties. Il fallait que je dose ça. Alors, je l'ai pas dosé. Fait que sur les 3 ans que j'ai joué avec à 150 et parties et plus, j'ai mis énormément de pression sur le coude. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt, ça n'a rien à voir avec les balles à effet. Mais bien sûr, tu sais, la vélocité tous les jours. Moi, c'est parce que le problème, c'est que je le faisais à tous les jours. J'avais pas 4 jours de congé entre mes départs. Ou entre les départs de commencer des matchs. Fait que c'est comme ça. Puis on en a eu quelques-uns. Corey Seager a subi l'opération de type Tommy John à l'arrêt court. Il y a des receveurs qui ont subi l'opération de type Tommy John. Alors, et c'est pas parce qu'il lançait des balles à effet. Donc, c'est encore une fois, ce n'est pas simple. Est-ce que ça serait l'idéal, ce serait le retour de la balle papillon parmi plusieurs lanceurs? Je ne sais pas, mais c'est vraiment... tu sais, en 2024, avec l'évolution de la médecine, j'ose espérer qu'on soit capable de déterminer une cause un peu plus précise. Puis qu'à ce moment-là, ben, si on en trouve une, et si c'est la vélocité, par exemple, ben tu sais, je veux pas faire vieux jeu, Alain, mais Greg Maddux le disait lui-même. Il dit, moi, je peux lancer 95-96. C'est sûr que je peux le faire. Ben, je vais lancer 91, mais je vais avoir du mouvement sur ma balle. Puis je vais pas lancer pendant tu sais, tout le match, là, parce que l'objectif à l'époque, c'était de lancer les 9 manches, ou en tout cas, le plus près possible des 9 manches. Oui. Alors, et pourtant, ce gars-là n'a pas subi l'opération de type Tommy John. Pedro Martinez n'a pas subi l'opération de type Tommy John. Donc, tu sais, il faudrait peut-être apprendre de ces choses-là, puis essayer de l'intégrer. Mais le problème, c'est qu'on est tellement focusé sur la vélocité, puis de lancer fort. C'est là, je pense, qu'on en échappe plusieurs, probablement de bons lanceurs, et qu'on se concentre peut-être pas sur la bonne chose.
Va dire à un jeune, Marc, qui est sur le point d'être repêché, lance moins fort un peu, puis même dans sa progression dans les ligues mineures, je vois difficilement comment on peut régler ce truc-là. Sinon, bon, est-ce que la balle comme telle est en jeu? Je pense qu'il faudrait qu'on s'attarde vraiment sur un pack, tu sais, sur la source de tout ça, pour tenter là, de limiter ce qui est devenu là, ce qui est devenu un problème majeur, moi, je pense, dans le baseball majeur.
Oh ben, c'est clair, Alain. Là. Puis, tu sais, comme j'ai mentionné, c'est le spectateur qui est perdant. Là. Tu veux voir ces gars-là sur le terrain. Tu sais, de te blesser à l'épaule, au coude, tu manques un mois de la saison, c'est plate, mais bon, tu reviens, puis on sait qu'il y a quelque chose de positif après, mais...
Ouais.
Là, une opération de la sorte ou une blessure de la sorte, c'est 12, 14, 16 mois parfois pour certains. C'est pas le fun pour les organisations. Puis en plus, les contrats sont garantis. Fait que là, l'organisation est prise avec un... Tu sais, financièrement aussi, là, ça coûte très, très cher. Donc, c'est un réel problème, Alain. Puis comme j'ai mentionné, c'est malheureux, mais c'est pas simple de corriger le tout. Mais là, je pense qu'on est quand même rendu à la limite. Tu sais, Spencer Strider, là, plusieurs le mettaient comme gagnant du trophée Cy Young avec l'équipe des Braves. Là, soudainement, si on le perd pour la saison, ben là, Alex Antopoulos va prendre le téléphone. Puis, mais tu comprends que c'est pas l'idéal.
Oui. Écoute, Marc, il y a d'autres, rapidement, des joueurs de position importants qui ont été blessés. Josh Young avec les Rangers du Texas. On a quand même quelques jeunes au sein de la formation qui peuvent aider, qu'on a intégrés cette année, qui vont probablement prendre plus de responsabilités. Je pense à Langford et Carter, évidemment. Trevor Story, blessure à une épaule, et Louis Robert. Dans le cas de Louis Robert, je pense pas que l'impact soit très gros, Marc. Les White Sox auraient pu finir dernier avec ou sans lui. Donc, dans ce cas-là. Mais dans le cas des deux autres, les White Sox carburent beaucoup avec une bonne attaque, avec des lanceurs qui... Bon, on y reviendra un peu plus tard. Là. C'est juste dommage pour Story qui n'est pas capable de rester en santé pendant de longues périodes.
Puis, tu sais, il se blesse sur un jeu spectaculaire. Tu sais, le gars, il se donne à 100% sur le terrain. Alors, séparation de l'épaule. On se croise les doigts que ce ne soit pas une absence trop, trop prolongée. Mais, tu sais, bon début de saison. Tu sais, Story fait partie de la solution chez les Red Sox. Fait que ça, c'est vraiment malheureux. Puis, Young qui arrive avec les Rangers, tu sais, toute une saison recrue, les attentes sont élevées. Fait que c'est sûr que les Rangers ont effectivement, tu sais, un peu de profondeur, mais pour le jeune, là, tu sais, puis en plus sur un tir haut à l'intérieur, alors qu'il avait amorcé son élan, fracture du poignet. T'sais, ça fait partie du métier dans ce cas-ci, mais c'est malheureux parce que, encore une fois, c'est l'impact que ça peut avoir sur l'équipe.
Ouais.
Puis, tu sais, ce sont des jeunes que tu veux voir sur le terrain, là.
Bon, Marc, c'est le temps de la question de la semaine présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voitures et camions classiques et antiques. On vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Et c'est pas compliqué, Marc. C'est quelle blessure aura le plus d'impact? En ce qui nous concerne, je pense, écoute, tu parles de Strider, candidat au trophée Cy Young. C'est difficile à remplacer, même si les Braves ont beaucoup de profondeur. On pense à ramener Elder, qui a eu une très bonne première moitié de saison l'année passée, comme partant. Écoute, s'il y a le même rendement que l'année passée, les Braves vont s'en sortir pas trop mal. Mais c'est quand même une grosse commande.
Ouais, c'est une grosse commande. Puis, encore une fois, c'est un des lanceurs, tu sais, les plus spectaculaires. C'est le genre de joueur qui vend des billets. Tu sais, les Braves jouent à l'extérieur, mais c'est Strider qui lance. Les gens vont aller voir ce match-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a un impact là, non seulement sur le terrain avec l'équipe, mais il y a un impact aussi en termes de popularité du sport. Là.
Donc, on vous invite à envoyer vos commentaires à propos de cette question sur facebook.com ou sur notre site Internet Compte Complet.
Alain, je profite rapidement de l'occasion pour remercier notre commanditaire principal, le Plan de Match, où je me retrouve présentement. Alors, vous avez besoin d'équipements de baseball, vous venez frapper dans les cages de frappeurs, bien, c'est à Boucherville. Allez sur le site Internet Plan de Match. Et évidemment, pour aussi connaître les endroits pour nous retrouver, soit par audio ou vidéo, bien, visitez notre site Internet comptecomplet.com.
Bon, Marc, on va parler des Blue Jays de Toronto. Premier voyage, on savait que c'était pour être difficile. Dossier de 4 victoires, 6 défaites. Écoute, il y a eu des montagnes russes dans ce voyage. On s'est fait décevoir à quelques reprises. La tenue des lanceurs, c'est peut-être ce qui inquiète le plus actuellement.
Pas d'accord avec toi.
Non.
Moi, je vais te dire une chose, là, cette attaque-là, Alain... Ça m'inquiète. Ça m'inquiète drôlement, au point où, puis là, je sais qu'ils n'ont pas joué un match à domicile, mais leurs trois premiers matchs à domicile, Alain, c'est contre les Mariners. Ils vont affronter Castillo, ils vont affronter Gilbert dans le troisième match.
Et Kirby.
Et Kirby dans le deuxième. Alors, si tu veux t'en sortir en attaque, ça peut peut-être perdurer un peu ces problèmes-là, mais ce que j'allais dire, c'est que je voulais attendre que bon, on joue quelques matchs à domicile, puis. Ouais. Mais Alain, je regarde ça aller, là. Je pense qu'on a. Et là, quand je dis on a, là, je vais inclure aussi les dirigeants des Blue Jays. Là, on a peut-être surévalué le talent qu'on avait sur cette équipe-là. Vlad Guerrero, c'est un excellent joueur, mais on ne verra pas, selon moi, ou plus selon moi, le Vlad de 2021. Vlad, ce qu'on a vu l'année passée, ou il y a 2 ans, c'est ça. C'est très bien, là. Mais c'est pas le joueur hyper dominant qui pourrait remporter à chaque année le joueur par excellence. Beau Bichette peut-il faire mieux vraiment? Beau Bichette domine pratiquement la Ligue américaine pour les coups sûrs à chaque année. Donc, il fait très, très bien. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à plus de Beau Bichette? Pas sûr. George Springer est en fin de carrière. Est-ce qu'on peut vraiment penser qu'il peut être encore meilleur? Je pense que, tu sais, Alain, tu es un gars de statistiques. Tu sais, tu regardes, il vient de faire ses 10 ans là, d'ancienneté dans le baseball. C'est un excellent joueur, mais est-ce qu'on peut penser qu'il peut en donner encore plus? Tu sais, Kiermaier, est-ce qu'il peut donner vraiment plus? Non, il y a peut-être Varsho qui pourrait en donner plus. Puis là, ben l'échantillon est très mince, mais ça regarde pas très bien en début de saison. Puis là, ben l'organisation dit, on va rester à l'intérieur, si on fera pas de gros coups, à part évidemment Turner puis Kiner Falefa, là, mais pour qu'on ait confiance qu'à l'intérieur de l'équipe, on est capable de faire mieux. Ben je suis pas d'accord avec ça, dans le sens que je vois pas ça. Je vois pas ça du tout. Puis tu sais, je regarde la qualité des présences au bâton, je regarde la façon dont on se présente avec des coureurs en position de marquer. Encore laisser une tonne de coureurs en fin de semaine contre les Yankees de New York sur les sentiers. Je fais le tour, là. J'ai regardé chacun des joueurs de position. Là. Je parle pas des lanceurs, mais des joueurs de position. Puis honnêtement, là, je vois pas comment on peut être meilleur que l'année dernière. Et moi, je trouve ça très inquiétant. Très, très inquiétant.
Moi, ce qui... pourquoi les lanceurs? Parce que l'année passée, Marc, on en a parlé, le personnel de lanceurs a été excellent. C'est l'équipe qui a... En tout cas, c'est le personnel de lanceurs qui a amené cette équipe-là l'année passée. Là, Gausman, je sais qu'on a parlé... Vous savez, là, cité, moi, j'ai regardé son dernier match. Écoute, ses premières rapides n'étaient pas à 90. Il y avait déjà, je trouve, un voyant rouge de ce côté-là. Il y a juste Berrios cette année. Bassett avait connu un mauvais début de saison l'année passée. Je vais attendre quelques départs avant de me prononcer. Mais c'est pour ça que je te dis que moi, ça m'inquiète les lanceurs. Puis c'est vrai qu'à l'attaque, c'est pas fort. Et je te dirais particulièrement face aux lanceurs droitiers. Chez les lanceurs gauchers, on est capable de faire du dommage. Mais face aux droitiers, Marc, on n'a même pas un MPP à 600. Ça peut te donner une idée, là. On a absolument zéro production face aux lanceurs droitiers. Puis tu parlais de la production. Bon, avec des courants en position de marquer, notre MPP cette année est à peine à 600. Donc, moi, ce qui m'a inquiété un petit peu au cours de la fin de semaine, et là, je parle de la fin de semaine parce qu'en début de saison, j'aimais ce que je voyais de Vlad. La balle partait quand même assez rapidement de son bâton, mais il a élargi la zone des prises comme je l'ai rarement vu depuis le début de sa carrière. Et c'est la même chose avec Bichette.
Je sais pas si les gars sentent une pression quelconque, Alain, mais tu sais, moi j'avais bon espoir qu'avec un Turner autour, tu sais, qu'on pouvait apprendre de lui avec, tu sais, puis peut-être ça va arriver. On sait que la saison est longue, puis bon, encore une fois, il y a pas beaucoup de matchs joués là, mais c'est pas de bonne augure. Les gars ont du talent là, mais tu sais, je parlais d'approche tantôt. Tu sais, Vlad frappe beaucoup trop de roulants. Alors ça, c'est que mécaniquement, il y a quelque chose à ce niveau-là. T'sais, c'est un gars qui doit tenter de frapper des balles en flèche. Il faut qu'il fasse vivre la balle. Ça semble pas être le cas. Il n'y a pas de vitesse, on vole pas de but hein, chez les Blue Jays. Donc, on peut pas créer non plus d'opportunités de créer des points. Puis si je retourne au niveau des lanceurs, tu sais, t'as un Alek Manoah qui a lancé au niveau A, là, ça a été désastreux, là, il lançait pas de prise, 4 buts sur base, 6 points accordés à même pas 2 manches lancées. Alors lui, je pense pas qu'il va avoir un retour rapide dans son cas.
Ouais.
Francis, qui a connu un très bon camp, qui méritait amplement d'avoir évidemment des départs en saison, ça a été difficile à ces deux départs jusqu'ici. Bonne nouvelle, c'est que Swanson devrait revenir quand même rapidement en relève. Ça va donner un petit coup de main. Mais Alain, je comprends très bien ce que tu me dis. Là. Ça passe par les lanceurs, mais il faut que l'attaque en donne un minimum. Puis moi, c'est là que ça m'inquiète. T'sais, il y a eu quelques élans intéressants, là, mais moi, je pense qu'on a surévaluer cette équipe-là à bien des égards. Enfin, on a surévalué les joueurs de façon individuelle, donc surévalué l'équipe. Et là, on se retrouve dans une situation là, très précaire. Là, parce que, bon, Schneider fait pas l'unanimité avec certaines décisions, mais et sans défendre Schneider, parce que je suis pas nécessairement un grand fan de lui, mais sans le défendre, ça vient pas vraiment toujours de lui. Puis là, on aura un autre débat éventuel, Alain, sur savoir... Là, est-ce que ça suffit là que les 5 gars à cravate avant un game décident c'est quoi la formation puis les décisions là, tu sais, ça me dérange aussi dans la façon dont cette équipe-là est gérée. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont gérés de cette façon-là, mais on gère pas le match. C'est ça qui me fatigue moi, puis je trouve que ça coûte plus cher ça qu'une meilleure, je veux dire une meilleure préparation ou une préparation qui est trop basée sur d'autres choses. Qui n'est pas ce qui se passe devant nous. Mais en tout cas, ça sera pour un autre débat.
Bon. Marc, en ce lundi matin, moment où on fait notre balado, une équipe qui, après 10 matchs, qui a une moyenne de points mérité à 1,49, un ratio de coureurs par manche lancée global en bas de 1, qui a un ratio de retrait sur des prises but sur balle de 4 pour 1, deuxième dans le baseball majeur. Ce sont les Red Sox de Boston. Tu parlais d'évaluation d'équipe. Je sais que les Red Sox, à la sortie du camp d'entraînement, parce qu'ils ont connu un bon camp, effectivement, et il y a plusieurs dans ce groupe-là qui disaient « Non, non, on va faire les choses comme il faut cette année. » Je sais qu'on n'a pas joué au Fenway Park, là, ça va peut-être faire gonfler un peu la moyenne de points mérités, mais quand même, Marc, 10 matchs, puis une moyenne de points mérités en bas de 1,5, là, est-ce que tu penses que c'est une tendance qu'on pourrait poursuivre, nonobstant le fait qu'il y en a une couple là-dedans qui ont quand même un historique de blessures? Je pense à Hauk et Whitlock, entre autres.
Moi, je suis bien impressionné, là. Hey, 1,49, Alain, là, on est premier de loin, là, de très, très loin. Bravo. Moi là, je veux dire, tu sais, Alex Cora, puis tout le staff d'entraîneur, le personnel d'entraîneur des Red Sox de Boston, tu sais, savait dans quoi ils s'embarquaient. Puis c'est peut-être l'équipe la mieux préparée, finalement. Tu sais, on parle souvent des Rays, on parle souvent de ci, de ça, mais peut-être que les Red Sox... Bon, je sais qu'il y a eu un peu de frustration à l'arrivée au camp d'entraînement parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de transactions ou de changement de personnel là, durant l'hiver, puis il y a certains vétérans qui se sont plaints, pas plaints, mais bon, on a critiqué un peu, on savait pas trop où la haute direction s'en allait, mais peut-être que ça a créé le fait, hey les gars, regardez là, la haute direction, c'est la haute direction, là on est là, on a un uniforme, on fait quoi avec ça, puis ça a peut-être permis une certaine motivation parce que premièrement, c'est extraordinaire de les voir dominer de la sorte. Voir Tyler O'Neill déjà avec 5 coups de circuit. Il y a des belles choses là, qui se présentent chez les Red Sox. Puis tu sais, Alain, Les matchs que tu gagnes en début d'année pour créer justement une fiche, tu sais, de 7 victoires et 3 défaites actuellement, faut pas minimiser la confiance que ça donne à une équipe. Puis tu sais, les petites victoires que, de plus que tu vas chercher en avril, ils peuvent faire une différence à la fin de l'année. Mais tu sais, c'est alors là, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis l'esprit d'équipe est meilleur, puis là, soudainement, ben tout le monde se tape un peu dans le dos, puis hey, on lâche pas, puis ça, là, c'est tellement important dans une équipe. Donc, tu sais, on dit souvent, hein, tu gagnes pas un championnat en avril, mais tu peux en perdre un. Alors, si tu commences solide, comme les Red Sox viennent de faire, puis moi, je pense que ça va perdurer pendant un petit bout de temps, là, on verra, la saison est très, très longue, mais j'aime l'attitude, j'aime l'arrogance qu'ils présentent. Puis il faut aussi lever notre chapeau, encore une fois, à Alex Cora et son personnel, parce qu'ils en sont une partie responsable de cette attitude-là. Là.
Écoute, Marc, rapidement, je veux t'entendre sur les Royals de Kansas City. Ils sont parmi les meilleurs au monticule. Moi, je suis pas surpris, parce que je pense qu'on s'est formé un très bon personnel de lanceurs partants. Est-ce que tu penses que ça peut être soutenable ce qu'on a réalisé depuis le début de la saison?
Ben, j'avoue que j'aime ce que je vois. Puis Bobby Witt Jr. semble se dire, moi, je prends cette équipe-là en main. J'aime vraiment... tu sais, on vient de parler d'attitude chez les Red Sox. On semble chez les Royals. Tu sais, on semble... Parce qu'il y en a eu des changements, là. Tu sais, le personnel de lanceur a été pratiquement transformé, là. Puis... on lance bien, donc là, soudainement, ben on dirait que le talent des joueurs d'opposition, tu sais, Melendez, il y a une couple de gars là qui décident. Alors, tu sais, la saison est courte, et encore, en fait, c'est tôt, mais c'est sûr que la première impression est bonne.
Oui. En tout cas, j'ai hâte de voir si on va être capable, effectivement, dans cette section-là, qui est peut-être plus ouverte qu'on le pense, là, si on va être capable de maintenir ce rythme-là chez les Royals. Ben écoutez, c'est le temps de parler de la carte de baseball de la semaine. C'est une présentation de cartes-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 14 000 articles en vente sur eBay. Marc, je me suis fait plaisir aujourd'hui et peut-être toi aussi. Tu sais, notre producteur m'a demandé, écoute, s'il y a un joueur que tu aimerais qu'on parle, ben moi j'ai choisi Alex Valentine. Et qui est Alex Valentine? Les plus jeunes s'en souviendront peut-être pas, Marc. Il a évolué pour les Expos dans les années 70, a été échangé en 81. Et là, j'ai inclus tous ceux qui ont passé par les Expos. Il y a eu des très bons joueurs. C'est peut-être le meilleur talent qui est passé par cette organisation-là. Il avait un charisme fou. Tu sais, Vlad Senior avait tous les talents au monde. Mais, tu sais, on voulait le voir jouer, mais avait probablement pas le charisme d'Alex Valentine, qui, lui, quand il arrivait quelque part, tu voulais le voir. Bon bras, rapide. Il y avait toutes les qualités possibles et imaginables. Les Expos avaient déjà André Dawson, mais ils avaient aussi Alex Valentine. Puis c'est autour de lui qu'on était supposé de bâtir l'équipe. La carte dont je vous parle, c'est OPG 1979, 2,77. Ça suivait l'année où il avait été choisi pour représenter les Expos au match des Étoiles. Donc, le logo d'OPG qui a remplacé celui de Topps au Canada. Et des inscriptions bilingues au dos de la carte. Donc, voilà pour Alex Valentine. Marc, je ne sais pas le souvenir que tu as de Alex, mais pour moi, écoute, il y avait tout. Comme je te dis, là, il y avait le nom, il y avait le talent, il y avait le charisme. C'est des problèmes hors terrain qui ont fait en sorte que, malheureusement, c'est une carrière qui a été plus courte et moins productive que ça aurait dû être.
Moi, j'ai des très bons souvenirs d'Alex Valentine. Je te dirais d'abord, Alain, que c'est son bras, moi, qui m'a... tu sais, je veux dire, les relais qu'il faisait. Puis évidemment, lorsqu'on écoutait la radio avec Jacques et Claude Raymond ou même à la télévision, tu sais, tout le monde nous disait « surveiller le bras d'Alex Valentine ». Fait qu'évidemment, moi, j'étais pas vieux, mais... si on me disait de le surveiller, je le surveillais. J'aimais aussi sa manière de frapper, avec un peu fermé, là, puis c'est un élan quand même qui était fort le fun à regarder. Malheureusement, les blessures à la fesse, ouais. Hein, qui est devenu un peu un peu sa signature. C'est ce que je retiens, mais. Ça me semble être quand même, Alain, un talent qui, malheureusement, n'a pas réussi à l'exploiter au complet durant sa carrière dans le baseball majeur.
Oui, des problèmes. Bon, évidemment, il y a eu des problèmes de consommation, c'est le premier à l'admettre, mais problème, oui, aux hanches, au dos, aux genoux. Et tout ça, Marc, regarde, c'était causé par une blessure quand il était à l'école secondaire. Quand les Expos l'ont repêché, c'était en deuxième ronde. Il aurait été un top 5 s'il n'avait pas de blessure à une cheville. En fait, on lui interdisait sa première année chez les professionnels, Marc, de glisser sur des sentiers en raison de cette blessure. Il y avait encore des vis dans sa cheville qui s'était fracturée au moment où on l'a repêché.
Puis pauvre lui, il est allé jouer sur le terrain du Stade olympique après. Mais bon.
Ce qui n'a pas aidé, évidemment, sa cause. On s'y attendait d'un petit moment, Marc. Semble-t-il que c'est vraiment la dernière année à Oakland pour les A's. On s'en va à Sacramento l'année prochaine avant le déménagement à Las Vegas. C'est un dossier qui ressemble pas mal à Montréal, Marc. C'est-à-dire que, bon, les partisans en ont eu assez à un moment donné. Ils ont déserté les A's, qui a fait en sorte que, bon, inévitablement, l'équipe doit partir. Difficile de blâmer des partisans dans un contexte comme celui-là.
Ben écoute, Alain, tu l'as dit. C'est, moi, là, ça me rappelle parfaitement le dossier des Expos. On ne met pas d'équipe sur le terrain. Les propriétaires parlent pas à personne. La ville qui se dit, tu sais, oui, non, peut-être. Donc, il ne semble pas avoir un intérêt. Tu comprends, là, c'est morose, là. Ça rappelle pas les bons souvenirs. Puis je pensais pas qu'on allait, tu sais, à la suite de l'expérience des Expos et de la ville de Montréal et de la province de Québec, on n'allait pas revivre ça ailleurs. Tu sais, qu'on allait peut-être apprendre de ça. Puis, mais faut donner une tape sur les doigts au baseball majeur. Ça a pas été un beau dossier là. Tu sais, ça a pas été là. Tu sais, franchement, laisser une franchise comme ça. C'est comme si on l'a forcé justement à être tellement mauvaise comme franchise que là, ben ça force un peu les choses. Puis là, on s'en va à Sacramento. Puis là, c'est un stade de 3A. Puis là, mais tu sais, c'est pendant 3 ans. Là, c'est pas rien. Là. À l'époque, les Nationals sont allés jouer au RFK Stadium. C'était, vous allez me dire, c'est peut-être pas mieux, là, mais au moins, c'était dans la ville où ils allaient évoluer. Puis on pouvait partir un peu la nouvelle, tu sais, la mise en marché de l'équipe. Un dossier mauvais là, sur toute la ligne, que ce soit le baseball majeur, que ce soit la ville d'Oakland, que ce soit les propriétaires des A's. Là, ça sentait pas. Ça fait longtemps que ça sentait pas bon. Puis là, c'est pas le fun. Là, même jouer pour les A's d'Oakland, ça doit quand même pas être agréable. Je sais que c'est du baseball majeur, puis c'est ce que les gars se disent, puis on est des professionnels, là, mais un œil au beurre noir là, au baseball majeur. Et à tout le monde là, dans ce dossier-là. En espérant que ça se règle de façon positive, mais tu sais, on a encore un 3 ans là, à parler de ça, mais en espérant que le dossier à Vegas va vraiment avancer, puis que le stade va se mettre en construction, puis que tu sais, on va voir la lumière au bout du tunnel, ben c'est sûr que pour moi, là, c'est pas des bons souvenirs.
Bon, Marc, on va en profiter pour parler des Québécois, puis il y en a un justement avec les A's, c'est Abraham Toro qui a frappé, bon, son premier coup sûr, c'était de longue balle, et qu'on a utilisé comme premier frappeur, et ma foi, ça a plutôt bien fonctionné. Il faut dire qu'Abraham a un bon œil au bâton. Tu regardes son nombre de buts sur balle dans les ligues mineures. Il a le profil de quelqu'un qu'on pourrait utiliser premier frappeur.
Ben, j'aime le fait qu'on l'a essayé. Puis écoute, non seulement il a bien fait, il a eu deux coups sûrs, deux points marqués comme premier frappeur. Mm-hmm. Il saisit sa chance en ce moment, Abraham Toro. Puis tant mieux pour lui. Moi, je pense que c'est un gars qui a gagné ses galons, qui est dans le baseball majeur depuis quand même quelques années. Je sais que l'année dernière, ça a été difficile parce qu'il n'a pas joué beaucoup. Puis lorsqu'il a joué avec les Brewers l'année dernière, il avait produit. Mais ça reste que... Je suis content qu'il ait sa chance. C'est vraiment un bon gars, Abraham Toro. C'est un gars qui travaille fort, un gars qui mérite. Tu sais, puis faut-il rappeler que c'est pas facile de se rendre dans le baseball majeur comme Abraham Toro. Donc, il a une très, très belle histoire. Je sais qu'on parle beaucoup d'Édouard Julien, mais tu sais, Abraham Toro, là, c'est une carrière qui est extraordinaire pour un gars qui a grandi ici.
Oui, écoute, Édouard Julien, on va le voir ce lundi contre les Dodgers. On espère le voir parce que c'est un gaucher qui est pour les Dodgers. On sait qu'on le soustrait présentement au gaucher. Par contre, Julien a d'autres ambitions, Marc. Veut pas se limiter à frapper contre les lanceurs droitiers.
Ben, c'est clair. Parce que t'es vite étiqueté au baseball. C'est-à-dire que si, rappelle-toi, Jock Peterson, t'es avec les Dodgers, on le mettait pas face au gaucher, puis là, ben, c'est quoi la réputation de Peterson? C'est que on le fait pas jouer contre les gauchers. Ouais. Alors, pour qu'Édouard Julien puisse être meilleur face aux gauchers, ben, il faut le faire jouer contre les gauchers. C'est qu'à un moment donné, il va falloir tourner la page. Mais pour ça, c'est qu'Edouard devra profiter des quelques chances qu'il aura de frapper contre des gauchers, d'avoir des bonnes présences. Je ne parle pas d'avoir des coups sûrs à chaque fois ou des circuits, là, mais d'avoir des bonnes présences, de sentir qu'il est dans le compte, qu'il est capable de produire malgré tout et gagner donc la confiance de son gérant à ce niveau-là. Depuis le début de la saison, Edouard a sa part de but sur balle, mais beaucoup de retraits sur des prises. Et les Twins, ça va avec un bon œil au bâton. Parce que la plupart du temps, lorsqu'Edouard prend un tir, lui, il pense que c'est une balle, mais l'arbitre, bon, décerne une prise. Alors, c'est toujours des tirs qui sont très, très près de la zone. C'est sûr que ça vient avec, les retraits sur des prises. Mm-hmm. Mais je pense que les Twins aimeraient voir Edouard avec un petit peu plus d'agressivité, un petit peu plus d'élan sur des tirs qui sont près de la zone des prises, parce qu'il se retrouve souvent avec des comptes de deux prises, sans s'être vraiment élancé. Puis là, ben, il est en mode un peu plus à se défendre. Alors, moi, j'ai très grande confiance qu'Édouard Julien va connaître une bonne saison. C'est un lent début, mais tout comme son équipe d'ailleurs en attaque. Alors, faut pas paniquer à ce niveau-là. Là.
Bon, Marc, Otto Lopez a changé d'organisation, s'en va avec les Marlins au niveau 3A, mais au moins il fait partie des 40 joueurs. On sait qu'il y a eu des changements chez les Marlins, ça va pas bien. Peut-être une fenêtre qui va s'ouvrir pour lui. Et Charles Leblanc, ben lui, sur au 3A, malheureusement pour lui, se retrouve sur la liste des joueurs blessés dans l'organisation des Angels.
Ouais, ben écoute, Otto Lopez, là, tant aussi longtemps qu'une organisation vient te chercher, ça c'est la bonne nouvelle. Parce que il y a 30 organisations, puis s'il y en a une qui trouve une place, vas-y, t'as un uniforme sur le dos, puis effectivement, je pense qu'on pourrait voir Otto Lopez avec les Marlins éventuellement, s'il peut. Il a eu un très bon premier match, d'ailleurs, au niveau 3 dans sa nouvelle organisation. Malheureusement pour Charles, il avait un bon début de saison. On espère que sa blessure ne retardera pas trop, parce que, vous savez, les blessures dans les ligues mineures, là, pour l'avoir vécu, là, tu te blesses, bien, soudainement, tu donnes la place à un autre, puis cette personne-là se met à frapper ou se met à bien jouer, bien là, soudainement, tu deviens... Tu sais, quand tu reviens au jeu, c'est plus difficile de reprendre ta place. Alors, tu veux éviter les blessures. Évidemment, c'est pas... On fait pas exprès pour avoir des blessures, mais tu veux les éviter à ce statut de sa carrière. Il a besoin de jouer, il a besoin d'avoir des chiffres pour, évidemment, se mettre dans la meilleure position possible pour être appelé éventuellement par les Angels.
Oui. On va évidemment suivre nos Québécois au cours de toute la saison. Donc, comme à l'habitude, de trois matchs cette semaine qu'on vous présente ce lundi soir. Bon, c'est l'équipe d'Edouard Julien qui va affronter les Dodgers de Los Angeles. Ça frappe chez les Dodgers depuis le début de la saison. Il n'y a pas de surprise là. On verra peut-être celui qui est le meilleur frappeur du baseball majeur présentement, c'est-à-dire Mookie Betts. Mercredi, on vous invite à être là. Bon, ce soir, c'est 19h30, ce lundi. 19h, mercredi. On verra les Red Sox de Boston et ce sera contre les Orioles de Baltimore. Les deux équipes ont parmi les meilleurs personnels de lanceurs de tout le baseball. Les attentes sont élevées pour les Orioles. Il y a plusieurs placés premiers. Les Red Sox derniers. C'est tout à fait comme ça que ça se passe depuis le début. Et on reverra les Dodgers dimanche alors qu'ils vont affronter les Padres de San Diego. Il y a une bonne rivalité qui s'est développée au cours des deux ou trois dernières années entre ces deux équipes. Voilà ce qui complète ce compte complet. J'espère que cela vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, encore une fois, lundi, pour le prochain épisode de Compte complet. Passez une excellente semaine.
Balado Compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.